Alors, bonjour à tout le monde. C'est impressionnant, voire même réjouissant d'avoir autant de visites ce matin. Je ne sais pas si tu es venu vraiment pour faire la fête avec moi, mais je me posais une question sur les deux bonnes raisons que tu sois heureux ce matin, si c'était la présence de ma reine ou la victoire de Toulon en H-Cup. Mais je t'invite à réfléchir avant de répondre. Voilà, en tout cas, pas de favoritisme, soyez tous les bienvenus. Ça aurait marché. Voilà. Alors, vu les circonstances de ce matin, étant donné que vous êtes tous assis, vous devinez la question. L'êtes-vous en vainqueur? Assis, oui, mais en vainqueur. Alors, bien rares sont les personnes qui ne se considèrent pas, je dirais, désavantagées dans un domaine ou dans un autre de la vie, et de la vie chrétienne. Elles évoquent parfois un handicap comme une explication à des échecs répétitifs dans leur vie chrétienne. Il semblerait que le premier sens du mot handicap ne soit pas celui d'une déficience physique ou mentale, innée ou subie, comme on pourrait avoir tendance à le croire. Mais le premier usage du mot handicap s'applique aux épreuves sportives et aux courses de chevaux, où l'on impose aux meilleurs certains désavantages avant le départ. Alors, le mot handicap vient de l'anglais, alors, la plupart d'entre vous ici connaissent le niveau d'anglais de François. Hein? C'est vrai que le chiffre zéro a du mal à traduire mon niveau de compétence en anglais. Bon, Suzanne n'est pas là, mais je pense qu'elle ne m'aurait pas contredit, mais zéro, c'est un chiffre positif. Ah. Alors, pour être plus sérieux, le mot handicap provient de l'anglais handicap, qui signifie, ou signifierait, hein, littéralement, la main dans le chapeau ou dans la casquette. Hein. Enfin, si vous portez un béret, c'est pareil. Hein? Et cela fait allusion au jeu de hasard. Alors, une personne qui est concernée par une certaine difficulté, un handicap dans sa vie, a pu dire ceci, je la cite. Il est évident que si nous considérons une difficulté quelconque de notre vie comme un mauvais coup du sort, nous aurons du mal à gérer cette difficulté. Si au contraire, nous considérons l'une ou l'autre de nos difficultés personnelles comme un défi pour mieux réussir la course de notre vie, nous partons en vainqueur de l'épreuve imposée. Et c'est bien que ce soit dans la bouche d'une personne qui possédait ou qui possède un handicap. Nous trouvons dans la Bible des récits où la fatalité qui s'attachait à un handicap a été brisée par la grâce de Dieu. Alors j'ai choisi un exemple pour nous ce matin. Alors je vous invite à prendre vos Bibles. Donc c'est dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 9. Et nous lirons les versets 1 à 10 et puis le verset 13. Donc, 2 Samuel 9, à partir du verset 1 jusqu'à 10 et ensuite le verset 13. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu de Siba ?» Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Siba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des deux pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il ?» Et Siba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Mephibosheth !» Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Et donc le verset 13, « Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. » Nous voulons prier. Seigneur, nous voulons de lire une partie de ta parole et nous savons, Seigneur, que ta parole est suffisante et c'est toi que nous voulons écouter ce matin. Que ta grâce, que ton efficacité et que ta puissance soient, Seigneur, pour chacun d'entre nous ce matin. Amen. Alors, enfin, c'est une histoire que nous connaissons bien, hein, mais quelle similitude peut-elle avoir avec nous ? Avec nos situations de vie ? Et surtout, où ouvre-t-elle des perspectives pour nous ? Alors, on va essayer de voir ça en quelques points. D'abord, comme similitude, premièrement, le nom. Alors, qui parmi vous a un nom biblique ? Vous pouvez lever la main, il n'y a pas de piège. Hein. Qui a un prénom biblique ? Voilà, il y en a quelques-uns. Bien, c'était oublié, tu vois. Hein. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez la signification de votre nom. Hein. Alors, une autre question, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui a le prénom de Mephibosheth ? J'ai pas de chance. Mais peut-être avez-vous dans votre famille, dans vos amis, dans vos relations, quelqu'un qui a le nom de Mephibosheth ? Ah, j'ai vraiment pas de chance. Hein. On pourrait se dire, mais dans quel calendrier ses parents ont-ils trouvé un nom pareil ? Hein ? C'est vrai que Mephibosheth n'est pas un nom qui court les rues. Alors la vie de l'homme qui porte ce nom et dont nous allons parler est faite d'ombre et de lumière, comme nos vies. Il est vrai que l'histoire de la vie de cet homme était dès le début dramatique. On ne pouvait pas plus mal commencer. Son père, Jonathan, et son grand-père, Saül, sont morts le même jour.
à la bataille de Gilboa. Et là, c'était aussi extraordinaire en malheur, puisque c'était quand même une défaite contre l'ennemi juré des Philistins. Donc Mephibosheth avait 5 ans lorsque ces deux grands malheurs, en tout cas, touchèrent sa famille. Et à ces nouvelles, à cette nouvelle-là, donc la nourrice a pris l'enfant, Mephibosheth, de 5 ans, elle est partie, et dans la précipitation, l'enfant est tombé, et il resta boiteux pour toujours. Et on comprend donc que Mephibosheth se considérait comme marqué par un sort qui s'acharne contre lui. Cependant, il avait tort. Il ne le savait pas encore. Mais son destin était d'être assis à la table du roi. Mephibosheth pensait que le sort s'acharnerait sur lui toute sa vie. Que c'était en fait son destin, de catastrophe en catastrophe. Il oubliait de refuser ou refusait de considérer la signification de son nom. Mephibosheth, qui détruit la honte ou qui lutte contre la honte ou encore qui se moque de la honte. Rien dans sa vie ne pouvait faire croire qu'il s'appelait Mephibosheth. Que signifie votre nom ou que reflète votre vie? Alors aujourd'hui, quand un enfant naît, il y en a qui sont en être d'ailleurs, hein, qui arrivent. Dans une famille, on choisit un nom qui nous plaît bien, hein, et qui sonne bien. Alors, je sais pas, il y a des personnes qui s'appellent aimables ici. Bon, c'est bon, je peux y aller. Mais peut-être que vous connaissez des personnes qui s'appellent aimables, hein, mais qui malheureusement auraient mieux été, un peu comme dans les sept nains, mieux dans la peau d'un grincheux. Hein. Rendez-vous compte, avoir un nom qui veut dire quelque chose et une vie qui veut rien dire du tout. C'était le cas de Mephibosheth. En tant que chrétien, nous portons un nom biblique, je dirais même christo-biblique, puisque nous nous donnons le nom de chrétien, donc de Christ. Est-ce que ma vie reflète mon nom? Pas seulement à l'extérieur, bien sûr, mais aussi à l'intérieur de ma maison. Est-ce que nos relations dans nos familles, notre mode de vie, sont empreints de la douceur et de la bonté de Christ qui devrait caractériser un chrétien authentique? Mieux vaut avoir un nom qui ne dit pas grand-chose et une vie qui dit quelque chose. Et une personne a dit un jour ceci, un joli nom n'embellira jamais une pauvre vie, tandis qu'une belle vie donnera du caractère même à un pauvre nom. Peut-être dit-on de nous que nous sommes un gars tip-top, une fille bien, un bosseur, une honnête femme, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que notre conscience tient le même raisonnement, le même langage? C'est le célèbre empereur romain Auguste qui, après avoir établi et dicté quand même de bonnes lois, accompli de belles choses, durant sa vie de monarque, il a donné aussi une certaine bonne image de lui. Et bien sûr, son lit de mort, il a dit ceci, « Ai-je assez bien joué la comédie ?» Ainsi nous ressemblons à Méphibosheth quant à son nom. Tout comme son nom ne reflétait pas sa vie, celui qui efface la honte, alors même qu'il est orphelin, en fuite, handicapé. De même, l'opinion flatteuse qu'on peut avoir de nous, de moi, ne colle pas à la réalité. Alors, la situation de vie de Méphibosheth, elle est nôtre. Ensuite, la deuxième chose, c'est que nous ressemblons encore plus à Méphibosheth quant à la famille à laquelle il appartenait. Comme nous l'avons vu, Méphibosheth était le petit-fils du roi Saül. Et on sait que le roi Saül avait passé une bonne partie, en tout cas de sa vie, à poursuivre David, à vouloir même le tuer à plusieurs reprises. Et Dieu avait écarté Saül du trône et l'avait remplacé par David. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, Méphibosheth faisait partie du clan de la famille royale, faisait partie des ennemis, du clan ennemi de la famille royale qui régnait. Et à cette époque-là, alors c'est vrai aujourd'hui, si vous n'êtes pas d'accord avec les plus puissants, c'est compliqué. Hein, mais à cette époque-là, il n'y avait pas pire perspective que d'être l'ennemi de la famille régnante. Il n'y avait donc pas de situation plus terrible pour Méphibosheth que d'être l'ennemi de la famille régnante. Mais notre situation à nous n'est pas meilleure. Parce que la Bible nous apprend que par filiation, nous faisons partie de la famille qui est opposée à Dieu. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 15, dit « La chair et le sang n'héritent pas du royaume de Dieu ». C'est-à-dire que par notre naissance naturelle, elle ne nous donne pas le droit d'entrer dans le royaume de Dieu. Même si cela est difficile à admettre. Voyons que dans la parole de Dieu, les Juifs se proclamaient, en tout cas, les descendants naturels d'Abraham. Et que nous est-il dit d'Abraham, c'est qu'il était, selon la Bible, le père des croyants. Ils croyaient que par leur seule lignée israélite, ils avaient le droit de se proclamer fils d'Abraham. Mais dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, le Seigneur lui dit « Votre père, ce n'est pas Abraham, c'est le diable. » C'est-à-dire que par leur conduite, leur haine du Seigneur était telle qu'ils relevaient non pas du père des croyants, mais du père du mensonge, du diable. C'est ce que le Seigneur leur expliquait. Aujourd'hui encore, beaucoup de personnes sont dans une situation dramatique, sans le savoir, car elles croient qu'elles sont et qu'elles appartiennent à la famille de Dieu, parce qu'elles sont nées dans une famille chrétienne ou dans un pays chrétien. Le nôtre n'est plus tellement. Hein. Mais la famille de Dieu, c'est une famille spirituelle. Et on ne peut pas y rentrer par la naissance physique ou par la foi d'un parent. Mon père est ancien, il est pasteur, il est ceci, cela. Il faut une naissance spirituelle personnelle. Et c'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir ou il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tant que nous n'aurons pas expérimenté cette nouvelle naissance, nous resterons dans la famille ennemie de Dieu, c'est-à-dire éloignés de Dieu. Une autre caractéristique de la vie et des circonstances de Méphibosheth, et donc en conséquence de se trouver dans cette famille déchue, nous constatons dans le récit que Méphibosheth
était en fuite. C'était un fugitif. Il était en fuite parce qu'il avait peur. Il avait fui, nous est-il dit, à Lodebar, dans un coin, semble-t-il, invraisemblable. Lodebar était un endroit qui voulait dire « terre sans pain ». Alors, pour des Français, ça veut dire quelque chose, hein, « terre sans pain ». Un endroit aride, où rien ne pousse, ou alors pas grand-chose. N'est-ce pas aussi l'une des caractéristiques des hommes d'aujourd'hui? Celle de fuir la présence de Dieu, croyant peut-être ainsi dissimuler ses incapacités, ses infirmités, ses fautes. Mais l'homme n'a pas été fait pour vivre dans la peur, ou dans la disette, morale ou physique. Il a été fait pour festoyer avec Dieu. Et puis une autre chose encore que nous apprenons dans ce texte, c'est que Mephibosheth était perclu des deux pieds. Pas simplement d'un, des deux. Si nous sommes sincères, c'est-à-dire honnêtes envers nous-mêmes, nous devons admettre qu'en nous, il y a quelque chose de cassé. Toulouse, on dirait de détraquer. Un handicap, comme nous l'avons évoqué tout au début. Par exemple, est-ce que nous ne sommes pas parfois tiraillés quand nous devons choisir entre un acte bon et honnête qui va nous coûter quelque chose et une passivité pas très honnête, qui va nous rapporter quelque chose. Dans 1 Roi au chapitre 18 et au verset 21, ça nous a été lu jeudi en étude, le prophète Élie s'est écrié face aux indécis de son époque, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds ?» Il les traite ainsi en quelque sorte de boiteux spirituels. Ne sommes-nous pas des boiteux quand nous ne parvenons pas à vivre comme nous le voudrions ou comme il le faudrait? L'expérience de l'apôtre Paul, qui est décrit dans l'épître aux Romains, n'est-elle pas la nôtre? Je le cite, « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais même le mal que je ne veux pas. Et quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. Devant Dieu et devant notre conscience, on est tous des boiteux. » Il y a quand même un paragraphe positif, hein. C'est dit en début, y a-t-il des perspectives? Heureusement, il y a du positif dans la deuxième partie de la vie de Mephibosheth. À quel moment? Au moment où c'est David qui prend l'initiative. Et on voit là que le roi David inaugure son règne, son accession au trône, par un acte de grâce hors du commun. Dans la réconciliation, dans le salut de Dieu, il faut bien que nous retenions quelque chose. C'est toujours Dieu qui prend l'initiative. Toujours. Dieu est à l'origine de notre salut. Il l'accomplit. Il le paie. Il l'offre. Et il nous prépare à le recevoir. Et nous découvrons dans ce récit, en fait, que David pensait à Mephibosheth. C'est ce qu'on a lu. Y a-t-il quelque part? Alors même que Mephibosheth ne pensait pas à David, sinon de le fuir. En ce qui nous concerne, c'est la même chose. Dieu pense à nous, même si nous ne pensons pas vraiment à lui.
l'invitation de Dieu demeure pour nous ce matin. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui fuit sa présence? Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui lui tourne le dos? Eh bien, Dieu cherche à restaurer une relation auprès d'une telle personne. Et c'est possible, par Jésus-Christ. C'est lui qui rend cette relation possible. Vous pouvez maintenant être accueilli par Dieu en acceptant son invitation à croire en l'œuvre de Jésus-Christ. C'est ça le salut. Crois au Seigneur Jésus, dira l'apôtre Paul, et tu seras sauvé. Alors peut-être cette personne dira ce matin, oui, mais comment je puis venir à un Dieu si grand? Comment? Mais la réponse est dans le texte. Comme Méphibosheth. Qu'est-ce qu'on lit au verset 8? Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Voilà comment il faut venir devant Dieu pour entrer dans le salut. Il ne faut surtout pas refuser de voir la réalité de nos vies en face, ni espérer pouvoir se soustraire à la repentance. Méphibosheth se compare à un chien mort. Et pour les Hébreux, chien, ça voulait dire beaucoup. C'était la pire des insultes. Et non seulement Méphibosheth se compare à un chien, mais un chien mort. Alors, quels que soient les éléments de notre histoire personnelle, qui nous incite à nous considérer comme peu de choses, voire comme un chien, peut-être mort, sachant que nous avons quelqu'un de plus grand que le roi David qui nous invite à sa table. Ne crains rien. Le salut de l'Évangile ne s'arrête pas au salut. Dieu ne nous sauve pas seulement pour nous sauver, oui, il veut nous sauver, il nous sauve. Mais il nous sauve pour nous avoir à lui, pour rétablir une relation qui était perdue, qui est perdue. Ne crains rien. C'est la première chose que David fait, c'est de rassurer Méphibosheth. Il semblerait, je ne l'ai pas vérifié, mais je fais confiance aux exégètes, il semblerait que dans la Bible, l'expression « ne crains rien » ou similaire, on peut la rencontrer 366 fois. Ça veut dire une fois pour chaque jour, même pour les années bissextiles. Si donc vous appartenez au Seigneur, et si vous avez fait la paix avec lui, il vous dit ceci, ne crains point. Toi, le Méphibosheth, dans les circonstances de ta vie, que tu craignes ou que tu subis, le Seigneur te fait cette promesse, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des siècles. Le dernier paragraphe, c'est celui de la restauration. Donc le salut ne s'arrête pas au salut. Dieu ne nous sauve pas pour nous sauver seulement. Le récit va plus loin. Non seulement David apaise les craintes de Méphibosheth, mais il lui rend ses possessions. Il redevient prince. Autrement dit, quand Christ règne dans un homme, dans le cœur d'un homme ou d'une femme, il y met son plan de salut. Le péché ne domine plus sur lui. Il ne continue plus à boitiller de côté ou de l'autre, ne sachant pas de quel côté aller.
J'avais un oncle qui pensait qu'il avait tout pour plaire et tout pour réussir. Sinon, par son nom, il s'appelait Julien. Mais du moins par son physique. Alors, je n'ai pas l'habitude de m'exprimer comme ça, mais vous m'excuserez de l'expression, mais il avait une gueule, comme on dirait au cinéma. Le bel Hidalgo aux yeux bleus. Et puis, de surcroît, il était adroit de ses mains, il était travailleur. Il avait fait de bout en bout sa grande maison tout seul. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont fait leur maison tout seul. Il montrait une façade d'homme joyeux, toujours prêt à plaisanter, même si les plaisanteries étaient parfois douteuses. Mais la réalité de sa vie, c'était son handicap. Une dépendance. Celle de l'alcool. Et de ce fait, il était boiteux dans sa tête. Perclus des deux pieds dans sa tête. Et il en est mort. Alors quelqu'un pensera ce matin, de toute façon, on meurt bien de quelque chose. Autant mourir en se faisant du bien, même au cœur d'une dépendance. En quelque sorte, la mort du héros. Oui, mais mon oncle n'est pas mort en héros. Et quand je considère les conditions de sa mort, cela a de quoi faire réfléchir. Avant de mourir et à force de claudiquer, il a commencé par perdre son travail. Ensuite, c'est sa femme qui a quitté le foyer familial. Et puis ensuite, ses enfants. Et parmi ses enfants, quelques-uns subissent encore aujourd'hui les mêmes dégâts dans leur propre vie. Mon oncle est donc resté tout seul dans sa maison. Et il y est mort. Alors, au début, quand je faisais le message, je pensais vous donner d'autres précisions concernant la manière dont mon oncle a été trouvé. Je ne vous les dirai pas, parce que je pense que quelques-uns ou quelques-unes pourraient être choqués. On peut aller loin, mais on peut aller bas, très bas. Mon oncle n'est pas mort un héros. Il a fait la guerre d'Indochine. Il aurait pu, pendant la guerre d'Indochine, mourir un héros. Mais il n'est pas mort un héros. Mon oncle a refusé l'acceptation de venir à la table du roi. De venir avec son handicap. Et au lieu de vivre et de mourir en vainqueur, il s'en est allé dans les pires conditions. Et puis, surtout, pour une séparation éternelle d'avec celui qui lui voulait que du bien. Mephibosheth, qui, malgré son nom, n'avait pas une haute opinion de lui-même, c'est lui qui l'a dit, on l'a lu, a fait le bon choix. C'est d'accepter l'invitation du roi. Conscient de sa triste situation de fuite, de dépendance physique, il est venu tel qu'il était. Et ainsi, il a pu vivre le reste de sa vie en vainqueur, sans subir la honte de la destitution de son grand-père. Finalement, ce qui paraît être un sérieux handicap à première vue peut se révéler être une aide à saisir la grâce de Dieu. La miséricorde divine s'exerce
en faveur des personnes misérables qui en sont conscientes et qui le confessent. David dit au verset 3 « Que juge envers lui de la bonté de Dieu ?» Mephibosheth, qui a su saisir la grâce royale, la bonté divine, mange maintenant à la table du roi. Et tous les jours. Il est en présence de son sauveur tous les jours. Il est chez lui tous les jours. Il est avec lui tous les jours. Et le roi est avec lui tous les jours. Fini Lodebar, terre sans pain, terre terrible, vide, terre de solitude, de souffrance, de dépendance. Fini la vie claudicante. En tant qu'enfant de Dieu, racheté, nous sommes sauvés pour vivre cette même proximité avec Dieu. Nos handicaps, nos limitations qui peuvent être tout aussi nombreux que variés, handicaps spirituels, physiques, handicaps de relations, handicaps de dépendance de toutes sortes, handicaps psychologiques, handicaps de proximité avec le monde, handicapés par nos choix de vie, etc., etc. Quelque part, nous sommes tous des boiteux. Mais ces limitations, dis-je, disparaissent à la table du roi. Quelqu'un peut-être, en tout cas c'est mon vœu le plus cher dans mon cœur, dira peut-être cette prière ce matin. Seigneur, je connais, et tu connais, mieux que moi-même, mes limitations, ma triste réalité, ma vie de boiteux, mais j'accepte ton invitation. Je veux vivre avec toi chaque jour. Assis à sa table de roi, en vainqueur, tel est le vœu de notre Dieu pour chacun d'entre nous. Assis, oui, mais vainqueur, que ce soit notre cas pour chacun. Amen.